Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez vu les paroles? Est-ce que vous avez vu tout le texte qui était affiché? Ouais. Je crois que la nouvelle année, c'est le moment des résolutions. En un sens, vous avez choisi plein de nouvelles activités, peut-être. C'est allumé? Non, je pense pas. Si? Vous avez sûrement choisi des activités, de faire du sport, de faire du judo ou du karaté, de faire peut-être du football ou je ne sais pas. Ou du Krav Maga. La rentrée est un moment spécial parce qu'on place là dans nos vies des choix qui peuvent être déterminants. Le thème qu'on va aborder, c'est J'ose la métamorphose. Ce thème est simple et en fait, il se concentre dans deux termes. Oser. Et ensuite la métamorphose. Oser. Ce sera tout l'enjeu de cette année et des premières réunions qu'on va vivre ensemble. Combien sont prêts à être challengés par la réunion de jeunesse? Je ne sais pas, qu'est-ce qui te motive à venir? Peut-être c'est voir des amis, peut-être c'est passer un bon moment dans la louange et je remercie l'équipe de louange pour le temps qu'on a passé ensemble. Peut-être que tu n'as pas le courage toi-même de lire la Bible durant la semaine et tu te dis le samedi après-midi, je vais avoir un truc nouveau de Dieu pour ma vie. J'aimerais te dire tout de suite que la volonté de Dieu, même la meilleure, ne va jamais s'imposer à toi. Pourquoi on a mis J'ose? C'est parce que tout ton engagement et ta responsabilité sera d'essayer. Alors, est-ce qu'on est prêt, chacun dans notre vie là, à se dire, je ne sais pas dans quoi je vais, je ne sais pas ce que je vais expérimenter de nouveau. C'est l'inconnu, c'est vrai. Mais est-ce que pour ta part, tu veux choisir d'essayer? Je vois des hochements de tête. Vous êtes vivant? C'est une véritable question. On pourrait se réunir et on pourrait vivre tellement de choses ensemble, samedi après samedi, des louanges, des moments de louanges, des moments de sketch et d'activité, aller jouer au foot. Tout cela, c'est rien si on passe à côté de ce que Dieu a pour nous durant cette année. Alors, quand je dis un truc intéressant, n'hésitez pas, vous pouvez dire amen ou un truc comme ça. Voilà. J'ose la métamorphose. Je profite que vous soyez assis. Est-ce que vous voyez tout ce que c'est, ça? C'est une boîte à outils. C'est une boîte à outils. C'est une boîte à outils. Cet après-midi, on va avoir un défi particulier. L'image est peut-être bizarre, mais en fait, ta vie, toi, ton identité, peut être semblable à cette boîte d'outils. En fait, on ne perçoit de toi que ton apparence extérieure jusqu'à ce qu'on ne te connaisse. On va passer à la diapo. Cet après-midi, on va parler, j'ose la métamorphose dans mon caractère. Je disais que notre vie peut être semblable à cette boîte à outils. Il y a des gens qui sont difficiles à aimer. Il y a des gens, c'est pas facile d'aller les voir, d'aller les saluer, de passer un bon moment. Pourquoi? Parce que sûrement dans la boîte à outils, il y a un marteau. Le gars, quand il te parle, c'est que pour t'assommer avec ses mots, quoi. Peut-être que dans ta boîte à outils, tu as des gants de protection. Dans ta vie, tu as vécu des circonstances, des situations qui font que maintenant, tu mets des gants avec les gens. Qu'est-ce que le gant, il fait? Il empêche le contact. On vient et on veut s'approcher de toi, mais toi, tu es imperméable. Tu es imperméable. On va oser la métamorphose dans le caractère. Parce que je suis sûr que dans tout ce que tu as vécu, dans tout ce que tu as expérimenté au jour d'aujourd'hui, il y a du bon que tu peux en ressortir. On poursuit. Non, tu peux le mettre. J'ai mis cette phrase, pour réussir, il faut oser. Sûrement, vous connaissez cette citation, cet adage-là, cette expression, la chance sourit aux audacieux. Vous la connaissez ou pas? Ouais. Je me dis que cette expression-là a un écho dans la Bible. Parce que la foi, Le principe de la foi, c'est de croire et d'espérer. Est-ce que vous avez vu dans la Bible une histoire de miracle, quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, où quelqu'un avait un besoin et la personne n'a pas bougé? Est-ce que quelqu'un dans la Bible a subi l'œuvre de Dieu? Non. À chaque fois qu'on voit dans le texte biblique quelqu'un qui a été guéri, quelqu'un qui a vu sa vie transformée, c'est parce qu'à un moment donné, il a osé croire. Il a essayé. Il a crié à Dieu. Il a vu Jésus qui passait, je pense à cet aveugle. Il a vu Jésus qui passait, il s'est crié. Fils de David, secours-moi. En fait, pour vivre quelque chose avec Dieu, il va te falloir essayer. On poursuit. On va lire ce texte ensemble et après, on va étudier un cas particulier dans la Bible. On y va, je lis avec vous. Ce texte se trouve dans 2 Pierre, à partir du verset 1, chapitre 1, verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, nous devenions participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. On continue. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu la science, à la science la tempérance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété à l'amour fraternel la charité. Et enfin en conclusion, car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans ce texte, j'ai été obligé de souligner et de mettre en gras des phrases, des mots, des expressions. Pourquoi ? Combien de fois là, on sent et on ressent l'idée de la connaissance ? Toutes ces choses et toutes ces promesses qui sont extraordinaires, on ne peut les acquérir que par la connaissance qu'on peut avoir avec Jésus. Je parlais de cette boîte à outils et on va prendre le cas très précis de quelqu'un dans la Bible qui a vécu du temps de Jésus. Rendez-vous compte là, il avait Dieu fait homme à côté de lui. Bon, je vais vous réveiller. C'est genre, moi, je suis le pote de Neymar ou Mbappé, il est dans ma classe et puis on se check, on parle. C'est comme si tu étais l'ami de Rihanna. Tu connaissais Rihanna, normal. En fait, il y a quelqu'un dans la Bible, et cette histoire est dramatique, qui a côtoyé Jésus, qui était ami avec Jésus et qui n'en a retiré aucun bénéfice. Est-ce que ça vous parle là? Je prends... Est-ce que vous savez de qui je parle là? Plus fort, osez le dire à voix haute. J'entends pas, pardon. Judas. Je sais pas si vous avez entendu beaucoup de prédications sur Judas. Moi, j'en ai pas entendu beaucoup. Et quand je préparais le message, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas leur dire, ces jeunes? Parce que tu parles là d'un cas problématique. On poursuit. Judas, mon premier point, quand ton caractère détermine qui tu es. Quand ton caractère détermine qui tu es. Comme je le disais, il y a des personnes qui sont difficiles à aimer, voire plus simplement, il y a des personnes qui sont difficiles à approcher. On a pris des exemples, mais quelqu'un qui tire la tronche, qui est tout le temps énervé, on a l'impression qu'il est tout le temps aigri. On a du mal à aller vers lui. Judas a été choisi par Jésus Mets la prochaine diapo, s'il te plaît. Judas a été choisi par Jésus pour être son disciple, pour passer 3 ans de sa vie à sa proximité la plus proche. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de mal finir. Il y a quelque chose dans le texte biblique qu'il nous faut comprendre. En fait, le nom dans la Bible a une grande signification. Ce n'était pas comme maintenant. On ne choisissait pas le nom de l'enfant avant qu'il arrive. On ne choisissait pas l'enfant, le nom de l'enfant quand il naissait. On choisissait le nom d'un enfant ou le nom d'une personne quand il était déjà grand. En fait, le nom d'une personne dans ce temps-là se rapportait à son caractère, à ses attitudes. Vous savez, je suis content parce qu'il y a de beaux prénoms ici. Il y a Grâce, je connaissais des pères. Comment ? Il y a des Shaima, bon, c'est pour ceux qui aiment, quoi. Non, c'est pas vrai. Il y a des beaux prénoms. Mais cela ne se réfère pas forcément à ton caractère. Or là, Judas, il a reçu son prénom alors qu'il était déjà grand. Et qu'est-ce que son prénom veut dire ? Yada, donc Judas, Yehuda, ça part de là. C'est remercier, louer, célébrer. On reste là. Je crois qu'il partait avec de bonnes chances, là, en fait. Sûrement, ses parents étaient chrétiens. Enfin, croyants, on s'entend bien, ils croyaient en Dieu. Sûrement, ses parents, là, ils se sont dit, ce garçon-là, il va avoir un grand avenir, en fait. Lui, sûrement, peut-être, quand il parlait, c'était tout le temps pour louer Dieu, c'était tout le temps pour célébrer Dieu. On ne sait pas, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'à cette époque-là, le prénom déterminait, en gros, qui tu étais. Il y a des exemples dans la Bible, dans l'Ancien Testament, où dans une situation de naissance compliquée, une mère a appelé son enfant douleur. Vous imaginez, en fait, quand on veut t'appeler, on dit « Hey, douleur, viens ici. Douleur, viens à table. Douleur, va à l'école. Bon, » ça s'arrange, parce que du coup, il quitte la maison. Mais « Douleur, viens dans mes bras. » Il y a des exemples typiques où Jésus a choisi de changer le nom de quelqu'un. Et je crois que si sur ta pièce d'identité, il n'y a rien qui va se produire, tu peux choisir de changer de caractère. Si ton caractère est lié à ton nom, la Bible nous dit dans l'Apocalypse que Dieu nous donnera un nom nouveau. Peu importe qui tu as été jusqu'à maintenant, si tu veux t'en débarrasser de ce caractère mauvais, tu en as la capacité. Il te faut juste essayer. Vous me voyez comme ça et je suis assez gentil, en vrai. Non, c'est vrai. Je suis assez gentil. Il y a eu un moment dans ma vie où j'étais assez bagarreur, assez colérique, en fait. Et dans ce moment de ma vie, on aurait pu m'appeler colère. Parce que j'aimais bien me battre avec mon frère, tout ça. Il y avait de la colère en moi. Et j'ai grandi dans une famille chrétienne, peut-être comme plusieurs ici. Et je me disais, ben Dieu, écoute, ben t'existes. Moi, j'ai entendu dire que la colère, c'est pas bien. Donc change mon cœur. Amen. Et je m'attendais, c'est ça le plus grave, je m'attendais à ce que, du jour au lendemain, je sois carrément changé de mon caractère. Alors peut-être que ça t'est arrivé. Mais en tout cas, toi qui veux te débarrasser d'un aspect de ton caractère qui ne te plaît pas, qui ne te fait pas avancer, sache que c'est avec de l'effort et de la persévérance que tu vas pouvoir changer. La foi est en matière générale, vivre avec Dieu, ce n'est pas quelque chose pour les feignants. Souvent, moi, et je pense que vous l'avez entendu, ouais, lui, il croit en Dieu parce que, voilà, c'est sa canne. C'est la canne de l'aveugle. Vous l'avez entendu ça ou pas ? Tu crois en Dieu parce que t'as peur de ce qui peut t'arriver, alors c'est comme un talisman et tu mets Dieu ? Non. Dieu nous rend responsables de nos actes. Plus, Dieu nous rend responsables de nos choix et de nos décisions. Si tu le décides, quelque chose de nouveau puisse se passer dans ta vie et dans ton caractère. Le caractère de Judas a causé sa chute. On va lire le verset qui suit. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est la couleur jaune, mais je vais lire. Cela se trouve dans Jean 12, 3 jusqu'au verset 7. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Judas Iscariote, celui dont on parle là, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum ? On en aurait tiré au moins 300 pièces d'argent qu'on aurait pu donner aux pauvres. S'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il était voleur. » Et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Waouh! Judas, qui connaît Jésus, qui côtoie Jésus, c'est un voleur. Comme je l'ai dit, Jésus savait très bien qui était Judas et il l'a pourtant choisi. Il y a deux catégories de personnes là, cet après-midi, au milieu de nous. Il y a des personnes, peut-être tu marches avec Dieu depuis longtemps. C'est devenu comme un tatouage sur ta peau. Ouais, je suis chrétien, ouais. Ouais, depuis petit. Ouais, je connais Dieu depuis petit. C'est quelque chose qui peut-être n'a plus la même portée qu'au début. Judas pouvait côtoyer Jésus et rester un voleur. Tu peux être chrétien. Tu peux venir aux réunions de jeunesse tous les samedis. Et pourtant, ne pas avoir le plein bénéfice de la présence de Jésus. Ton caractère peut déterminer qui tu es. L'opportunité lui a été donnée. On poursuit, s'il te plaît. L'opportunité a été donnée à Judas à maintes et maintes reprises. Et l'essentiel là, c'est de dire que il n'y a aucune fatalité. Judas aurait pu s'en sortir. Est-ce que vous connaissez la fin de Judas ? En fait, il s'est trompé. Il avait de mauvais sentiments parce qu'il était voleur, mais il s'est trompé. Quand il est allé vendre Jésus, enfin, quand il est allé organiser l'arrestation de Jésus, c'était parce que pour lui, selon les commentaires bibliques, c'était parce que pour lui, Judas disait « Wow, il faut l'arrêter ce Jésus-là. » Enfin, il n'a pas compris, peut-être c'est lui le Messie, mais il n'a pas compris sa mission en fait. Il faut l'arrêter avant qu'il fasse une gaffe et que nous, le peuple juif, on soit en embrouille avec les Romains. Vous voyez, c'est la Bible français courant 2017. Judas avait de bons sentiments. Il ne pensait pas forcément mal faire. Il y a un risque énorme. Tu te connais mieux que moi-même, je ne te connais. Toi, tu sais ce qui va et ce qui ne va pas. Il y a un risque énorme à ne pas vouloir changer. Tu pourrais venir et entendre, et entendre, et entendre, et entendre, tant que tu n'as pas pris la décision de changer. Même Dieu, s'il le voulait, ne pourrait pas le faire. Rien ne va s'imposer à toi. Donc, ose. Secondement, quand ton caractère détermine tes relations. Et là, on avance. Quand ton caractère détermine tes relations. Il y a quelque chose de la vie de Judas. Là, il faut prendre le temps de lire dans plusieurs versets pour voir, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, ça. Poursuis. Il y a plein de versets dans la Bible où, en fait, on cite le nom des disciples. On cite ce qui était avec Jésus. J'ai pris deux textes où on cite ce qui marchait avec Jésus. Il y a quelque chose d'intéressant. On va le découvrir ensemble. Marc 3, 16, 19. Voici les noms des douze qu'il désigna, donc Jésus. Simon, auquel Jésus donna le nom de Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, auquel il donna le nom de Boanerges. Ils changent leur nom. Ce qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélée et Judas Iscariote, celui qui le trahit. Le prochain verset. Voici les noms des 12 apôtres. D'abord Simon, appelé Pierre, puis André son frère, Jacques, fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélée et Judas Iscariote, celui qui a trahi Jésus. De ces deux textes, il n'y a pas un truc qui vous choque? Pourquoi? C'est le même ordre. C'est le même ordre. En fait, il faut comprendre le texte. Quand on citait ceux qui marchaient avec Jésus, l'ordre là est censé représenter leur proximité avec Jésus. Vous savez, on est tous chrétiens, il n'y a pas de favoritisme. Pourtant, dans la Bible, on voit qu'il y a des personnes qui ont été tellement proches de Jésus qui ont vécu des choses extraordinaires. Il n'y en avait que trois qui étaient sur la montagne de la Transfiguration. Vous savez, c'est quoi la montagne de la Transfiguration? À un moment donné, Jésus a voulu prier et il est monté. Il a choisi trois disciples avec lui et il est allé prier. Il était sur une montagne, une haute montagne. Et là, tout d'un coup, une voix se fait entendre du ciel. Et Jésus, qui était humain, fait de chair et d'os comme toi, comme moi, là, son apparence change. En fait, ils l'ont vu dans sa gloire. C'est beau, ça? Moi, j'aurais aimé y être. En fait, pourquoi Jésus est parti qu'avec trois disciples? Ce n'est pas une question de seulement. Ce n'est pas seulement une question de disponibilité. Parce que les disciples étaient là avec lui constamment. Tous, ils étaient là avec lui. C'est une question de cœur. Il y a un texte dans la Bible, un verset, et je vais l'expliquer après l'avoir donné. Il y a un texte qui dit qu'on ne jette pas les perles aux pourceaux. Donc, ça peut être cru, mais je vais l'expliquer. En fait, je ne vais pas donner le meilleur de ce que j'ai à quelqu'un de qui je suis loin. C'est mes meilleurs amis qui vont peut-être bénéficier le plus de qui je suis, de mon caractère, de mes capacités, de ma voiture, de ce que j'ai. Vous comprenez ce que je dis là ou pas? En fait, c'est parce qu'ils étaient proches de Jésus qu'ils ont eu la chance de le voir dans sa gloire. Ton caractère peut déterminer tes relations. Je crois qu'on est appelé à vivre bien plus que ce qu'on vit maintenant, chacun pour notre part. En fait, j'aime Jésus aussi parce qu'il ne me voit pas comme ce que je suis dans ma faiblesse, en fait. Il ne me voit pas comme ce que j'étais dans le passé. Jésus me voit comme ce que je peux être et ce que je peux devenir si j'accepte d'essayer de saisir sa main. Il y a ta version en 2.0, en fait. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas ce que tu es maintenant, même s'il t'aime comme tu es maintenant, mais il t'aime et te chérit tellement qu'il veut que tu puisses t'épanouir davantage. L'épanouissement, le vrai, se trouve dans la connaissance de Jésus. Vous vous rappelez le texte qu'on a lu avant? Le tout premier texte. Il y avait des mots soulignés là. Par la connaissance. Les merveilles des promesses extraordinaires. Tout ça dépend de ta proximité avec Jésus. On poursuit. Donc là, c'est la référence du verset. Pour ceux qui notent, on poursuit, s'il te plaît. J'aimerais terminer, et on s'avance sur la fin, avec ceci. Quand ton caractère détermine ta destinée. L'image qu'on a prise avec la chenille qui devient un papillon m'a parlé parce que je me suis dit, elles n'ont pas le même point de vue. Vous savez, notre caractère se manifeste surtout dans les choses qu'on expérimente, dans les choses qu'on vit. Ok, je répète. Notre caractère se manifeste en fait dans les choses qu'on vit. C'est-à-dire que tu peux avoir tout ton smile, être joli garçon, mignon et tout plein, mais quand on vient te chercher, quand il y a quelque chose là qui te déplaît, comment tu réagis? C'est placé devant une situation difficile qu'on voit réellement qui on est. Semer une action a des conséquences sur le futur. Je vais vous donner un témoignage. Je venais d'avoir une mauvaise note dans contrôle. Je venais d'avoir une sale note là et j'étais vraiment énervé. J'étais en cours. Et il y a la comparaison souvent. Hein. Donc moi, je me suis comparé avec un ami à moi qui avait une meilleure note. Ça m'a énervé. Ça m'a vraiment énervé. Et le prof venait me voir. Il a vu ma mine. Il a vu que j'étais énervé. Et en fait, il m'a dit, Pascal, c'est dommage. C'est dommage parce que là où je venais vers toi là, c'était pour te donner une chance d'avoir des points en plus sur ton devoir. Mais si tu le prends comme ça. En fait, les actions et les choix qu'on prend vont influencer ce qu'on va vivre. Si tu es agréable, sûrement les gens seront agréables avec toi. Si tu es généreux, la Bible dit que l'homme qui a le regard bon est béni. Si tu pratiques la générosité, attends-toi à ce que Dieu te bénisse. Là, on peut dire amen quand même. Dieu veut tellement ton bonheur. Je ne sais pas dans quel mot je pourrais le dire. Il veut tellement que tu sois heureuse, heureux. Mais pour le faire, pour que tu sois proche de lui, il faut que tu lui sois agréable. Ça parle à quelqu'un là? Ok. La chenille et le papillon ne voient pas la même chose. Maintenant, je crois que tu peux faire un choix là. La chenille, pour moi, est comme le symbole du chrétien charnel. Le chrétien qui ne va jamais vivre des choses exceptionnel avec Dieu. Pourquoi? Parce que la chenille ne voit que les choses qui sont en face d'elle, c'est-à-dire au sol. Et dans ta situation, si tu te laisses gagner par ton mauvais caractère, c'est que tu n'as pas compris la vision que Dieu a pour toi. C'est une histoire de vision. La chenille et le papillon ne voient pas la même chose. Et dans ta situation, si tu ne regardes qu'à tes pieds, si tu ne regardes qu'au sol, tu ne verras pas ce que cette situation peut être comme une opportunité pour toi. Ce que tu vis, que ce soit bon ou très dur, et là je parle peut-être à des jeunes, il y a des problèmes de jeunes, il y a une dimension que j'ai connue quand j'étais un peu plus jeune. Il y a des choses que tu vis et c'est peut-être tellement dur que tu décides juste de serrer les dents. Il y a peut-être des choses tellement difficiles que tu te dis, ben, si c'est comme ça, ben Dieu, je te boude. Si c'est comme ça, mon vieux caractère là, tu vas le voir maintenant. Ok. Sauf que c'est peut-être une opportunité pour que tu vois Dieu d'une façon différente. J'ai pas eu tous les outils et tous les instruments que je voulais, mais en tout cas, voyez l'image. Quand tu t'élèves, tu vois plus loin. Quand tu t'élèves, tu vois plus loin. Alors ne te focalise pas sur ce que tu vis. Ne laisse pas ton caractère déterminer qui tu es. On va fermer les yeux, on va prendre un temps là. À un moment donné, les paroles ne suffisent pas. Et si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous parle, alors on ne sera pas changé. Il y a des choses avec lesquelles tu luttes. Et tu te dis, c'est comme ça, je suis comme ça et je ne suis pas autrement. Et tu sais au fond de toi que ces choses-là ne te laissent pas heureux, ne te rendent pas heureuse. La bonne nouvelle de cet après-midi, c'est que Dieu connaît ton cœur et il connaît ton désir de changer. Chacun pour notre part là, on va rester un moment dans le silence. Ne sois pas un Judas. Ne laisse pas Dieu être à tes côtés sans que tu ne puisses bénéficier de tout ce qu'il a pour toi. Ton caractère est peut-être un frein. Alors maintenant réfléchis. Et choisis de changer de caractère. Si tu demandes à Dieu de t'aider, il le fera. Mais la Bible dit cela. Faites tous vos efforts. Faites tous tes efforts. On reste un temps dans le silence, alors que l'équipe va s'approcher.